Vous écoutez, on lit pour vous.
Des femmes quittent la politique ayant l'impression d'avoir été des plantes vertes. Un texte de Caroline Plante paru le 11 octobre 2024 dans Le Devoir. Les femmes quittent volontairement la politique non pas à cause du sexisme, des doubles standards ou de la conciliation travail-famille, mais parce qu'elles se sentent sous-utilisées. Voilà la conclusion d'Alexandre Dumas, historien et auteur de l'étude « Pourquoi les femmes quittent-elles la politique ?» commandée par le Comité des femmes du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale après la vague de départ de 2022. Ce qui ressort de ces entrevues avec 21 anciennes élues, c'est qu'elles ont eu l'impression de jouer la plante verte, explique-t-il en entretien au Parlement, reprenant la célèbre expression de l'ex-députée caquiste devenue conservatrice, Claire Samson. Lors de son dernier point de presse en juin 2022, Mme Samson en avait choqué plusieurs en déclarant que les députés faisaient office de « plante verte au Salon bleu » et qu'elle avait personnellement trimé plus dur à 17 ans au Da Giovanni. Selon M. Dumas, Claire Samson, qui était outrée de devoir poser des questions écrites d'avance en commission parlementaire, illustre parfaitement la frustration suscitée par le sentiment de jouer un rôle d'apparat. Les élus qui quittent la politique ont eu l'impression que leurs compétences n'étaient pas reconnues et de n'avoir d'autre utilité que de faire acte de présence en chambre pour assurer le quorum, autrement dit, de jouer le rôle de plante verte, écrit-il dans son essai. On leur demande de lire des lignes de communication aux journalistes, de voter des projets de loi qu'elles n'ont pas eu le temps de lire et sur lesquels on ne leur demande pas d'avoir une opinion de toute façon. On leur donne les questions qu'elles doivent lire en commission parlementaire, précise-t-il en entrevue. Cette frustration peut très bien être partagée par les hommes, mais contrairement aux femmes, ceux-ci ont tendance à vouloir rester en poste, explique-t-il. Il souligne que près des deux tiers des élus qui ne sont pas représentés en 2022 étaient des femmes, bien qu'elles ne constituaient que 44% de la députation au moment de la dissolution de la Chambre. Les hommes sont plus nombreux à faire de la politique une carrière, dit-il. Les femmes, au final, se demande « Pourquoi on fait ces sacrifices-là? Pourquoi on est en train de faire ça? » Il existe des obstacles à la persévérance des femmes en politique. Sexisme, micro-agression, double standard dans les médias, cyber-harcèlement, conciliation travail-famille, énumère le chercheur. Les entrevues ne donnent cependant pas l'impression que ces facteurs ont été déterminants, écrit-il. C'est lorsqu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent bien jouer leur rôle ou que leur fonction pourrait être occupée par quelqu'un d'autre sans que cela fasse une différence qu'elles prennent la décision de quitter. Revoir le rôle du député. L'ancienne députée et ministre péquiste, Marie Malavoie, qui est aujourd'hui impliquée au sein du cercle des ex-parlementaires, croit qu'une réflexion collective s'impose. Là, on a un problème, dit-elle en entrevue. Nous, on travaille depuis des années à faire entrer des femmes en politique, à les attirer, mais si elles entrent et elles ne tiennent pas le coup, on n'est pas plus avancé. C'est un panier percé. Rappelons qu'en 2022, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, s'est engagé à procéder à une réforme parlementaire afin notamment de revaloriser la fonction de député. Il proposait entre autres de créer une chambre de délibération parallèle au Salon Bleu, la Chambre des affaires citoyennes, pour y entendre les affaires des députés, dont ceux du parti au pouvoir. Il prévoyait aussi une nouvelle rubrique offrant une tribune supplémentaire aux parlementaires pour débattre, entre autres, de projets de loi qui n'émaneront pas du gouvernement. Pour que le projet se concrétise, des discussions doivent encore avoir lieu avec les autres partis représentés à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de sa recherche, Alexandre Dumas a interviewé, entre novembre 2023 et mai 2024, 21 politiciennes qui ont choisi de ne pas se représenter aux élections de 2018 et 2022. Il a pu bénéficier du soutien financier du secrétariat à la condition féminine, du ministre de la Justice, ainsi que du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. C'était « Des femmes quittent la politique ayant l'impression d'avoir été des plantes vertes », un texte de Caroline Plante paru le 11 octobre 2024 dans Le Devoir.
De mystérieuses masses blanches découvertes sur les plages de Terre-Neuve, un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 octobre 2024 dans La Presse. Des amas gélatineux blancs font leur apparition sur les plages de Terre-Neuve depuis la fin de l'été 2024. Environnement Canada a ouvert une enquête pour trouver l'origine de ces mystérieuses masses blanches. Tout a commencé le 9 septembre 2024. Ce jour-là, David McGraw, un éleveur de visons à la retraite, se promenait sur la plage de Gooseberry Cove, dans la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve. « J'ai vu des petits amas blancs bizarres », témoigne-t-il. « Ils étaient assez petits, allant de la taille d'un 2 $ à presque un pied. Ils avaient une certaine consistance, mais n'étaient pas durs. Il y en avait à chaque pied. Depuis, ces amas blancs ont été signalés de part et d'autre de la baie de Plaisance, qui s'étend sur 125 km dans le sud-est de la province. La plage de Gooseberry Cove a dû être fermée temporairement à cause de la trop grande quantité de matière blanche sur la rive. Certains des signalements ont aussi fait état d'une matière particulièrement inflammable. Ma fille a ramené un amas blanc chez elle et l'a mis sur sa terrasse. Le lendemain, il était bien collé et il a fallu l'enlever avec un grattoir à peinture, raconte M. McGraw. Environnement Canada a dépêché des enquêteurs à Ship Cove 3 jours après la découverte, affirme Samantha Bayard, relationniste au ministère fédéral. Une deuxième visite avec des enquêteurs de Pêche et Océans Canada a eu lieu le 30 septembre 2024 et une troisième le 7 octobre 2024 avec la garde côtière. La substance ou sa source n'ont pas été identifiées, dit Samantha Bayard. Mais des analyses préliminaires dans nos laboratoires suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une substance à base de plantes. Des analyses supplémentaires sont en cours. Selon M. McGraw, certains des amas sentent le plastique. Il souligne qu'une raffinerie est située au bout de la baie de Plaisance. La raffinerie Come by Chance a été en activité de 1973 jusqu'en 2020. Plus tôt cette année, elle a rouvert pour la production de biodiesel fabriqué à partir d'huile végétale et de gras animaux. Des productions pilotes sont en cours, ce qui pourrait être compatible avec l'hypothèse d'une substance à base de plantes. Le monstre de la baie de Fortune. En 2001, une autre mystérieuse substance blanchâtre avait été découverte dans la baie de Fortune, un peu à l'ouest de celle de Plaisance. Il s'agissait alors d'un seul amas, beaucoup plus gros. Une enquête d'un biologiste de l'Université Memorial à St. John's avait déterminé qu'il s'agissait d'une baleine en décomposition. Le biologiste, qui a fait l'analyse en 2001, Steve Carr, s'apprête à étudier les nouvelles masses blanches découvertes depuis le début de l'été 2024. Si c'était des morceaux de mammifères, il y aurait une odeur horrible. Le monstre de la baie de Fortune puait horriblement en 2001. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'invertébrés, par exemple une colonie de méduses, amené dans la baie par une tempête, explique M. Carr. Des batteurs de grève regroupés dans le groupe Facebook Beachcombers of Newfoundland and Labrador ont relevé que les amas blancs ressemblent à des toutons, des crêpes terneuviennes typiques. Il se pourrait en effet qu'il s'agisse d'une cargaison de Touton qui est passée par-dessus bord. Il y a quelques années, la même chose était arrivée à une cargaison de canards en plastique dans le Pacifique. On les avait retrouvés jusqu'en Europe, dit M. Carr. En savoir plus, 800 nombre d'épaves dans les eaux de Terre-Neuve, source Société de préservation des épaves de Terre-Neuve et Labrador. C'était de mystérieuses masses blanches découvertes sur des plages de Terre-Neuve, un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 octobre 2024 dans la presse.
L'actualité verte de la semaine. Un texte de Sarah Champagne, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse. Quelques milligrammes de l'actualité environnementale. Quiz. Combien d'okapis subsistent-ils dans la nature? A. Entre 3000 et 5000. B. Entre 500 et 1500. C. Entre 10 000 et 15 000. Réponse. Il en subsisterait entre 10 000 et 15 000, selon des scientifiques du nord-est de la République démocratique du Congo, seul endroit au monde où l'animal vit à l'état sauvage. Ces estimations datent toutefois d'une dizaine d'années. L'organisme à but non lucratif, Okapi Conservation Project, estime leur nombre à 3000 dans un récent décompte à la réserve faunique d'Ituri. L'okapi est une espèce en voie de disparition, au surnom mystique de « licorne des forêts ». Il a l'allure d'une grande antilope zébrée. Il est menacé par la déforestation au profit des mines d'or illégales et le braconnage pour un marché de prétendue huile curatrice d'okapi. La fin pour le glacier de l'Apocalypse? New Scientist. Le glacier Thwaites, surnommé glacier de l'Apocalypse, à cause de son potentiel de faire monter le niveau de la mer de 3,3 mètres. Le glacier Thwaites, en Antarctique, touche à sa fin, selon les plus récentes observations des experts de l'International Thwaites Glacier Collaboration, ITGC. Après avoir scruté durant 6 ans la structure du glacier de la taille de la Floride, le regroupement d'experts du Royaume-Uni et des États-Unis constate que son front s'enfonce de plus en plus dans le plancher océanique. L'effondrement de celui qui est surnommé le glacier de l'Apocalypse a le potentiel de provoquer une élévation du niveau de la mer de 3,3 mètres, menaçant des villes comme New York, Calcutta ou Shanghai. Des tests de recongélation de banquises en Arctique avec du pompage d'eau de mer donnent cependant une lueur d'espoir. Relance de l'énergie solaire aux États-Unis avec Bloomberg. Un regain d'intérêt pour les technologies propres est pressenti par le holding JP Morgan aux États-Unis grâce au fléchissement attendu des taux d'intérêt. Avant cette baisse, l'Association des installeurs résidentiels, Solar Energy Industries, prévoyait une chute des ventes de 19 % cette année. Mais la Réserve fédérale américaine a changé la donne en abaissant son taux d'un demi-point. Dans une entrevue à différents médias, le haut dirigeant de Gigawatt Incorporated, Deep Patel, a déclaré que la baisse des coûts d'emprunt allait stimuler la vente. Un projet solaire résidentiel moyen coûte facilement 30 000 US. Et environ 85 % des propriétaires font financer leur projet solaire. L'oiseau de l'année en Nouvelle-Zélande. Le manchot bruyant a remporté le concours de l'oiseau de l'année 2024 en Nouvelle-Zélande. Après une année de campagne, le manchot aux yeux jaunes a été désigné pour sensibiliser la planète à la situation critique des oiseaux de ce pays. Cet oiseau timide, l'oïo, ou crieur de bruit, est considéré comme le manchot le plus rare au monde. Sa population a chuté de 78 % en 15 ans. Il serait tout juste 5 000 à l'heure actuelle, notamment à cause de la surpêche de sa nourriture. Son élection lui donne une certaine visibilité qui pourrait favoriser sa préservation. Le manchot bruyant a récolté 6 000 votes parmi les 50 000 participants. Essor de la viande à base de plantes en Asie. De la viande à base de plantes cultivée en laboratoire dans les assiettes en Asie? Pourquoi pas? Les protéines de rechange sont considérées comme une nouvelle énergie propre en Eurasie. À la fin du mois d'août, une conférence a rassemblé des bio-ingénieurs, des chimistes, des biologistes et des scientifiques de l'alimentation de Chine et de Singapour avec l'objectif de réinventer le marché de la viande. Les experts ont rappelé que les aliments d'origine animale sont responsables d'un cinquième des émissions annuel mondial de gaz à effet de serre. Le défi asiatique de la culture en laboratoire est de parvenir à en produire en quantité industrielle. C'était l'actualité verte de la semaine. Un texte de Sarah Champagne, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse.
Grosse peine d'amour. Un texte de Carmen R. paru le 23 septembre 2024 dans Urbania. Urbania et équilibre s'unissent pour vous faire prendre conscience de l'omniprésence des nombreuses micro-agressions que vivent les personnes grosses au quotidien. Je me souviens du jour précis où j'ai compris que je ne trouverais pas ça hyper plaisant d'être grosse au quotidien. J'avais 16 ans et je travaillais dans un magasin à grande surface. J'avais passé l'année scolaire en compagnie d'un collègue super cute avec moustache et cheveux longs. Il portait souvent une chemise de Dragon Ball avec un t-shirt de Burzum en dessous. Il conduisait une Tercel 85 blanche rouillée, bref, un premier chum de rêve potentiel. Pour les besoins de son anonymat, on va l'appeler Marco. Marco, mon premier gros croche. On chantait du Louise Attaque en nettoyant les cabines d'essayage et on se coordonnait toujours pour prendre nos maigres pauses en même temps. On cachait nos flip-phones sous nos uniformes pour se texter des niaiseries et il m'avait appris à faire du longboard dans le stationnement. Tous les signes étaient là pour qu'il fasse un move et qu'on passe un été de rêve ensemble. Eh bien, c'est un vendredi soir de canicule après la fermeture qu'il a fait le move. Je classais des souliers sur une tablette sans faire de bruit quand j'ai entendu au loin la voix de mon prince charmant provenant d'une allée avoisinante. Mon cœur battait la chamade puisqu'il parlait de moi avec un autre collègue tout aussi cute. Sérieusement, Carmen, elle est tellement cool. J'ai jamais autant ri avec quelqu'un, puis elle est tellement belle. Mais c'est dommage qu'elle soit grosse. Je pourrai jamais sortir avec. Me voilà donc, accroupi sur le sol dans une chaleur étouffante, en train de trier des souliers pour 8,17 $ de l'heure. 16 ans, une grande romantique et la vie devant moi. J'apprends alors que, pour la majorité de mes relations amoureuses à venir, ce sera dommage que je sois grosse. Je regarde autour de moi et à ma première job tant convoitée, je constate que je ne vends aucun vêtement de ma taille. Je venais d'ailleurs d'acheter ma robe de bal sur eBay, car j'étais incapable d'en trouver une ailleurs dans laquelle je rentrais. Dans ma tête d'ado, si je ne pouvais faire quelque chose d'aussi simple que de rentrer dans un vêtement, Marco avait bien raison. C'était vraiment dommage que je sois grosse. Selon André-Anne Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre, même si on parle plus de grossophobie qu'avant, c'est encore relativement nouveau et il y a encore beaucoup de préjugés bien ancrés qu'il faut déconstruire. Dans la société, la minceur est encore très valorisée et associée au bonheur, au succès, à la performance. Cela fait en sorte que les gens attribuent malheureusement une valeur moindre aux personnes grosses. Les industries d'amaigrissement et d'esthétisme profitent également beaucoup de l'insatisfaction corporelle des gens et entretiennent les nombreux préjugés, notamment qu'il ne suffit que d'un peu de volonté pour maigrir, alors que c'est beaucoup plus complexe. Pendant les années qui ont suivi, j'ai souvent été la meilleure amie de tous mes croches. Celle qu'on aime en secret, celle de qui on ne peut pas tenir la main en public, celle qui est un 10, mais elle est grosse. Je constate juste, au fil des ans, qu'au-delà de toutes les petites choses dans lesquelles je ne rentre pas, comme le titan à la ronde, certaines toilettes publiques ou les chaises de camping cheap, ce qui est le plus difficile quand j'habite mon corps, c'est encore et toujours le regard des autres. Et je ne suis certainement pas la seule, parce qu'au Québec, une personne sur 4 a déjà été victime de discrimination à cause de son poids, que ce soit dans des relations personnelles, des magasins, au travail, dans la recherche d'un logement ou dans le système de santé. Je ne dis pas ça pour me plaindre ni pour me victimiser. Que je ne pogne pas une seule de mes amies à m'écrire ou en privé pour me réconforter suite à cette lecture. Il y a des affaires vraiment pires que ça dans la vie. J'ai dit ça plutôt parce que Marco, et toi aussi si tu te reconnais en Marco, je ne le te blâme pas du tout. Je ne lui t'en veux absolument pas. Parce qu'en 2024, même si j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps, de la diversité corporelle, et qu'on voit passer des initiatives où l'essentiel du message semble ne se rendre que de façon éphémère, jusqu'au prochain moment où on a une pensée intrusive à caractère grossophobe. Je ne peux pas blâmer les gens de ne pas avoir un regard doux sur mon corps. C'est un peu comme ça qu'on nous a élevés. On pense encore probablement souvent que je me claque 3 ou 4 Big Mac en déjeunant avec une tasse de beurre. Selon un sondage léger de 2021, plus de la moitié de la population pense que les personnes grosses ne sont pas en bonne forme physique, sont inactives, mangent trop ou mal. Et selon André-Anne Dufour-Bouchard, ce n'est pas qu'une simple question de volonté ou d'habitude de vie. Ce n'est pas « si on veut, on peut ». Il est bien démontré que les facteurs qui influencent le poids d'une personne sont nombreux, complexes et beaucoup moins contrôlables que ce que l'on peut croire. Il existe mille et une raisons qui font qu'on est gros ou grosse. Personnellement, je considère avoir de bonnes habitudes de vie. Je ne fume pas, je bois un verre par mois, je suis pas mal végé, je n'ai jamais mis de sucre dans mon café le matin. Mon très gentil médecin est aussi très fier de mes prises de sang qu'il qualifie de « parfaites pour une grosse ». Je fais mon elliptique les mardis et jeudis et mon yoga le dimanche. Et quand même, j'ai des grosses fesses. C'est une marque de commerce familiale et héréditaire, comme me disait mon grand frère lorsqu'il me consolait de mes chagrins d'amour corporels. Mon corps est juste fait de même, et chaque corps a ses raisons d'être, fait comme il l'est. Alors, d'où provient notre obsession à devoir commenter le corps des autres comme s'il nous appartenait? Je parle ici de tous ces commentaires non sollicités du type « Ben oui, voyons, c'est sûr que ce chandail-là te fait, il est immense. T'es tellement belle pour une grosse. As-tu essayé le jeûne intermittent? Ou les « Madame, vous avez eu un rhume parce que vous êtes grosse. Pour guérir de votre rhume, vous devez absolument perdre du poids. » Ces commentaires peuvent paraître anodins pour les gens qui n'en reçoivent pas, mais au quotidien, ça peut nuire à notre santé physique, mentale et sociale. Je sais qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions derrière ces commentaires grossophobes et que souvent, ils se veulent bien intentionnés. On veut m'aider parce qu'on pense que c'est triste que je sois grosse, alors qu'au fond, on devrait s'en ficher complètement parce que je vis vraiment très bien. Selon un autre sondage léger mené en 2023 pour Équilibre, 77% des répondants et répondantes croient qu'il serait pertinent d'éduquer la population sur la grossophobie. Je vous propose donc de vous y mettre en gardant cette mission en tête. La prochaine fois que vous vous surprenez à juger une personne qui est grosse, posez-vous la question. D'où vient ce jugement et comment s'est-il construit? Sur ce, je vous laisse avec ces paroles de Louise Attac, tu sais, celle que moi et Marco on chantait souvent ironiquement dans le fond. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. P.S. Marco, si tu te reconnais en lisant ce texte, sens-toi pas mal. Je suis passé à autre chose. Oui, oui. C'est possible d'aimer une personne grosse. P.P.S. Mais si jamais tu as encore des pensées grossophobes, Marco, va consulter la campagne « La grossophobie, ça suffit » d'Équilibre à l'adresse suivante équilibre.ca/campagne/la-grossophobie-ça-suffit. C'était « Grosse peine d'amour », un texte de Carmen R., paru le 23 septembre 2024 dans Urbania.